Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de l'Instant Jeune, l'émission du réseau Information Jeunesse à destination des jeunes. Je suis Florine du Point Information Jeunesse de la Mayenne Communauté et je suis comme d'habitude accompagnée de Laurence du Centre Information Jeunesse de Laval. Bonjour.
Bonsoir Florine.
Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'adaptation des jeunes à cette crise liée au Covid-19 que nous traversons. Et les jeunes peuvent parfois être vulnérables du fait de leur statut étudiant ou de leur précarité financière, mais ils ont néanmoins la réputation d'avoir de grandes ressources qu'ils peuvent aussi mobiliser dans les moments de difficulté, comme on peut connaître cette année. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Donc nous sommes en présence de Stacy de l'association Inalta. Bonjour.
Bonjour.
De Laura également, qui va nous rejoindre par téléphone. Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Miguel Sanchez, qui est président de la Banque Alimentaire. Bonjour.
Bonjour.
Et également Bernard Loget, qui est président de la Croix-Rouge et que nous avons par téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci à tous et à toutes déjà d'avoir répondu présent à notre émission qui a lieu tous les mois. D'abord, Monsieur Sanchez et Monsieur Loget, vous venez d'ouvrir une banque alimentaire, une épicerie solidaire, pardon, pour les étudiants. C'est un projet qui vient d'être mis en place récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors, en fin de compte, mi-novembre, j'ai rencontré Monsieur le président du conseil départemental, Olivier Richefou. Et on a échangé effectivement la façon pour aider les étudiants. Et on s'est dit, et créer une épicerie solidaire, ça serait une bonne chose. Alors, elle a été créée en très peu de temps. La première rencontre à l'ouverture, à peine 2 mois et demi. Voilà. Donc, alors, lors de ce premier entretien, nous avons conclu de faire un deuxième rendez-vous à l'ESIA pour finaliser le projet. Et là, c'était le 17 décembre. Donc, là, à ce moment-là, j'ai demandé à Bernard Loget de la Croix-Rouge s'il voulait être partenaire de la Banque alimentaire pour monter cette épicerie.
Très bien.
Et cette épicerie solidaire a été inaugurée le 1er février. Elle est ouverte depuis le 3 février, mercredi 3 février.
Donc, c'est tout récent. Et Monsieur Loget, quel est le rôle de la Croix-Rouge dans ce projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Absolument. Monsieur Sanchez nous a appelés. Ça fait déjà quelques années que la Croix-Rouge travaille en étroite collaboration avec la Banque alimentaire. Donc c'était vraiment un projet très intéressant, surtout pour tous les jeunes qui habitaient dans le quartier justement de l'endroit où est posée cette épicerie alimentaire. En quelques jours, de nombreux bénévoles se sont proposés pour venir nous aider. Et comme on travaille depuis longtemps ensemble, eh bien, la Banque alimentaire fournit la marchandise qui est déposée là-bas directement dans les locaux. Et la Croix-Rouge, avec d'autres bénévoles, dont certains de la Banque alimentaire, mais aussi de quelques autres associations qui sont sur Laval, sont là pour la distribution auprès des étudiants, comme vous a dit M. Sanchez, le mercredi après-midi et le jeudi. Et on va essayer de faire en sorte que les élèves qui habitent dans les autres quartiers de Laval puissent également se déplacer et surtout leur faire part de cette distribution, surtout pour eux qui ont des petits travaux du week-end qui sont complètement supprimés avec le Covid. Ben voilà, des gens qui n'ont plus de revenus du tout, alors qu'ils finissaient quelquefois les fins de mois avec le petit emploi du week-end, malheureusement, qui a disparu.
Juste pour rappeler, donc cette épicerie est ouverte à tous les étudiants lavallois en études supérieures exclusivement, ou des jeunes qui seraient en difficulté, qui ne sont pas étudiants en études supérieures, peuvent aussi y avoir accès?
Alors, ce qui a été décidé, que c'est ouvert à tous les étudiants, et y compris lycéens majeurs et stagiaires. Hein. Alors, c'est une gratuité. Hein. Disons, l'aide alimentaire sera gratuite pour tous ces étudiants. Aujourd'hui, j'ai eu un contact avec l'UCO, hein, qui n'était pas informé de cette épicerie solidaire. Donc, les étudiants s'approcheront, les étudiants qui souhaitent bénéficier vont s'y venir assez rapidement aussi.
Ils doivent pas nécessairement passer par un travailleur social du CROUS ou qui décide de qui peut y avoir droit ? Est-ce qu'il y a des conditions de ressources ? Comment vous procédez ?
Pour l'instant, c'est ouvert à tous les étudiants qui vont se présenter. Bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura un peu plus de connaissances auprès de ces étudiants. Mais pour l'instant, tout le monde peut passer à cette épicerie solidaire. Même ceux qui habitent dans les autres lieux d'études de Laval, c'est-à-dire sur les autres quartiers.
Vous aviez dit, Monsieur Sanchez, que c'était un souhait pour vous d'aider les étudiants. Est-ce que ça répond, votre épicerie, elle répond à un besoin des étudiants que vous aviez observé auparavant ?
Oui, effectivement, parce que il y a un moment que je suis dans le milieu associatif, dans le milieu caritatif, et je vois que beaucoup d'associations comme les Restos du Cœur, Secours Populaire et d'autres, essayent d'aider les étudiants, mais les étudiants n'osaient pas faire franchir ce premier pas. Donc on s'est dit qu'il serait préférable d'avoir plutôt un site directement dédié à eux sur l'emplacement de l'université. Ça les permettrait d'être passé plus incognito et ne pas faire la queue avec les autres bénéficiaires. Voilà. Et on sent effectivement qu'il y a un gros besoin. Monsieur le Président de la République nous en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement, il faut aider les étudiants. Il y a une crise importante. Ils sont seuls, sans assistance ou pratiquement sans assistance. Il y a le repas, effectivement, de 1 euro par le CROUS, mais ça ne suffit pas. Donc, nous comptons les aider un peu plus en leur donnant 7 kilos, c'est-à-dire 14 repas pour la semaine.
Donc, ce sont à la fois des produits de plats préparés, des fruits, des légumes. Concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez aux étudiants ?
Eh bien, absolument tout. C'est-à-dire que nous, déjà auprès des personnes qui avaient un besoin ponctuel, on les dépannait ce qu'on appelle le produit sec. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la Croix-Rouge ne distribuait pas de produits frais, de produits congelés, etc. C'était ce qu'on appelle le produit sec. C'est aussi bien la boîte de conserve que la boîte de pâtes ou la boîte de farine ou le paquet de farine. Là, il y a également tous les produits frais qui sont fournis par la banque alimentaire, qui sont dans des frigos, donc pour bien respecter les consignes, cette chaîne du froid. Et les jeunes viennent avec leur sac isotherme pour pouvoir repartir avec des produits frais et pouvoir s'alimenter pendant toute la semaine. Donc c'est quand même assez facile puisque la banque alimentaire arrive pour la livraison de produits frais le mercredi matin et dès 14h l'après-midi, les premiers étudiants peuvent passer. Et pour confirmer ce que disait M. Sanchez, c'est que ces étudiants qui n'oseraient pas venir un par un parce que c'est pas toujours facile de faire le premier pas, de rentrer dans une épicerie où on va vous donner de la marchandise. Alors que là, ça a tellement passé sur les médias, je veux dire que tout le monde en parle, puisque M. Sanchez, vous parlez du président de la République qui a dit « mais il faut absolument que les étudiants aient de quoi manger parce qu'ils n'ont plus de revenus à côté ». Tout ça fait qu'ils commencent à venir par petits groupes et que ça démarre lentement, mais je pense que ça va, en quelques semaines, il n'y aura plus de réticence. Ce sera quand même plus facile de venir parce que justement, c'est ouvert à tous.
Et on peut imaginer que le fait que l'épicerie se trouve sur le campus, effectivement, lève un tas de stigmatisations qui peuvent ressentir et qui peuvent freiner le premier pas et qui rend encore plus accessible et visible aussi votre aide alimentaire.
Voilà, et le fait de venir tous ensemble ou au moins par petits groupes, il ne va plus avoir la gêne qu'il aurait pu avoir quand il y en a un qui se déplace tout seul et qui regarde bien si on n'est pas en train de l'épier. Ce serait quand même dommage. Là, c'est vraiment ouvert à tous et il faut qu'ils en profitent puisqu'ils n'ont plus de revenus à côté comme ils avaient avant que ce fameux virus nous tombe dessus.
Effectivement.
Alors, je rajouterais que dans cette épicerie solidaire, parce qu'il y a quand même des gestes barrières, nous laissons rentrer deux étudiants, deux par deux. Et en plus des produits secs, comme on disait, c'est-à-dire pâtes, riz, boîtes de conserve et produits frais, ils auront aussi la possibilité d'avoir des produits d'hygiène. La Croix-Rouge a mis à disposition des des petites sacoches là de produits et produits d'hygiène, et la banque alimentaire en fournira plus tard. Voilà. Donc ils n'auront pas que des produits de la nourriture, des denrées, ils auront aussi des produits d'hygiène
qui sont également très importants. Et vous avez dit que ça avait été facile à créer. Il y a eu très rapidement, dans la vitesse en tout cas, il y a eu très rapidement un écho, même auprès des bénévoles. Comment vous expliquez cette rapidité à se mettre en mouvement autour de ce projet ?
Les services de la ville, enfin, du conseil départemental, de l'agglo, tous les gens responsables dans la ville de Laval se sont mis à faire un travail considérable, puisque en quelques jours, ce bâtiment a été installé. C'est des modulaires, mais il fallait quand même que ces modulaires soient installés et soient en état de fonctionner. Tout ça en quelques jours. Donc, une fois que ça a été mis en place et que la banque alimentaire a quand même du stock de produits frais, mais aussi toutes les conserves, il fallait tout simplement installer des étagères, une façon de procéder, de limiter également le nombre de personnes à l'intérieur. Mais tout ça fait que dans un magasin de 45 mètres carrés, il ne faut pas une demi-heure pour faire les courses. Ouais. Donc, c'est assez vite fait quand même. Et je pense que les gens qui sont passés... on va les revoir dans les semaines à venir, puisqu'ils prennent en principe leur repas de la semaine. C'est-à-dire que les 6-7 kilos de marchandises, ça représente 1 kilo par jour, donc il y a déjà de quoi préparer les choses.
Alors, pour votre info, le président de la Banque alimentaire de Lille-et-Vilaine m'a contacté ce week-end. Ils vont copier notre modèle et ils vont en ouvrir deux dans la région de Rennes.
Et il y avait déjà aussi une initiative étudiante de ce genre aussi à l'université Rennes 2 sur le campus Villejean. Oui. Mais oui, effectivement, ça prend de l'ampleur. Beau projet, en tout cas. Merci pour votre témoignage. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, des horaires d'ouverture, par exemple, ou autre chose ?
Oui, alors on rappelle les heures d'ouverture, le mercredi de 14h à 17h et le jeudi 14h, 17h, le même horaire.
On est bloqué pour l'instant avec ce couvre-feu à 18h. Le jour où ça va changer, on pourra sans doute allonger la distribution de l'après-midi au moins jusqu'à 17h30. Mais pour l'instant, on est un peu bloqué parce qu'après, il faut que chacun soit rentré chez lui pour 18h. Donc il n'est pas question de faire prendre des risques à qui que ce soit.
Bien sûr.
C'est une initiative qui est censée durer combien de temps? Vous avez prévu fonctionner là jusqu'à la fin de l'année scolaire?
Non, plus. On fera jusqu'à qu'il y ait un besoin. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de limite dans la durée.
D'accord.
Donc, la prochaine ouverture universitaire, l'entrée universitaire, on sera là aussi. C'est un problème.
Tant que tous ces étudiants n'auront pas récupéré le travail du week-end, le travail de la soirée, c'est-à-dire les revenus financiers qu'ils avaient en dehors de leurs études, ils auront toujours besoin de manger et on sera toujours là pour les aider.
La mission locale s'est créée comme ça en 82 et finalement est toujours d'actualité, parce que peut-être qu'on aura encore besoin de vous dans 20 ans, on n'espère pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir faire durer cette initiative aussi longtemps qu'il y aura besoin. Merci pour votre témoignage. On va marquer une petite pause musicale et on va écouter Gaël Faye que nous a proposé Julie. Merci.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau.
faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
Eh bien, de retour sur l'autre radio pour l'instant jeune, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous parlons aujourd'hui de la manière dont les jeunes s'adaptent à la situation sanitaire que nous traversons actuellement. Donc, je suis en compagnie de Laurence du CIJ de Laval, de Stécie de l'association Inalta, Laura, Julie, également Monsieur Sanchez de la Banque Alimentaire et Monsieur Loget de la Croix-Rouge. Donc Stécie, peut-être que vous pourriez nous présenter l'association Inalta qui est très présente sur le territoire mais que nos auditeurs ou auditrices ne connaissent peut-être pas forcément.
Oui, alors l'association Inalta, du coup, c'est une association qui se déploie sur le département de la Mayenne et aussi sur le département de la Sarthe. Qui œuvre surtout dans le domaine de la protection de l'enfance, donc qui va avoir du coup plusieurs structures, à la fois des structures qui vont être plutôt dirigées vers les enfants, donc avec des maisons d'enfants à caractère social, ou également aussi des services d'aide à la parentalité ou de soutien à la parentalité. Et donc moi, je travaille sur le service de prévention spécialisée de la Mayenne. J'interviens moi sur le quartier de Saint-Nicolas, aussi du Pavement du coup, et on intervient nous en Mayenne sur aussi le quartier des Fourches, la ville d'Évron et la ville de Mayenne. Voilà. Donc c'est des missions qui s'effectuent dans le cadre de justement de la protection de l'enfance. Notre mission principale c'est de lutter contre la marginalisation et contre le décrochage scolaire. Du coup, on travaille auprès des jeunes de 8 à 21 ans et on les rencontre sur l'espace rue, en fait. C'est ça notre spécificité, normalement. C'est qu'on est très présent sur l'espace rue, à la fois pour connaître la dynamique du territoire et aussi pour rencontrer les jeunes sur l'espace qu'ils investissent finalement le plus et pouvoir connaître leurs habitudes sur le territoire et établir du lien avec eux par ce biais-là. Donc ça, c'est en temps normal, parce qu'évidemment, avec la situation actuelle, c'est un petit peu plus compliqué. On remarque qu'avec les différentes périodes de confinement qu'il y a pu y avoir, avec le couvre-feu aussi, on a des jeunes qui prennent des nouvelles habitudes, en fait, et qui investissent leur territoire différemment. Donc plutôt que d'être sur l'espace rue, ils vont prendre l'habitude de se retrouver plutôt dans des logements et tout ça. Donc on a un petit peu plus de mal à les, à les rencontrer de cette façon-là. Donc, on a été obligé, nous aussi, de s'adapter et d'innover un petit peu dans nos pratiques, on va dire.
Déjà que l'hiver rende les jeunes moins visibles chaque année, là, ça rajoute un peu de difficultés.
Vous, oui, effectivement.
J'imagine que pour pallier à cette difficulté de les rencontrer, vous êtes présent sur les réseaux sociaux.
Oui, effectivement, ouais, on est. Alors c'est quelque chose qu'on faisait déjà un petit peu avant. On avait des réseaux sociaux, mais c'est vrai que je pense qu'on les investissait beaucoup moins. Et depuis le tout premier confinement, donc en mars dernier, c'est vrai qu'on a pris l'habitude un petit peu plus d'y aller. Et il y a eu du coup pendant tout le premier confinement vraiment une très grosse activité de la part de toute l'équipe sur les réseaux sociaux pour essayer de garder du lien avec les jeunes. Et finalement, quand on a pu retourner sur l'espace rue et revoir tout le monde un peu en présentiel, on a un petit peu lâché ça. Parce que ça faisait du bien aussi de pouvoir se revoir en face à face, mais on y est revenu un petit peu parce que, comme je le disais, il y a des jeunes qui prennent d'autres habitudes aussi et qui ont perdu l'habitude de sortir de chez eux, qui ont perdu l'habitude d'être présents sur l'espace rue. Et si on veut continuer à avoir du lien avec eux et à pouvoir échanger avec eux, il faut qu'on soit présent là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc là, nous, on est sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook, avec, on ne va pas se mentir, quand même plus d'activités sur Instagram quand même et plus d'échanges par ce biais-là. Et donc là, nous, depuis la rentrée de septembre, on a pris la décision de faire, nous, ce qu'on appelle des présences sociales numériques, c'est-à-dire que en fonction des territoires, on va faire au moins une soirée par semaine, voire deux soirées, où il y a un éducateur qui sera disponible sur les réseaux sociaux de 19h à 22h à peu près, soit disponible pour échanger, soit aussi qui va pouvoir lancer des sujets de conversation à travers des stories avec des quiz ou des choses comme ça sur les réseaux.
Les activités que vous faites en face à face, j'imagine, ont évolué également.
Oui, en fait, c'est aussi, c'est vrai que nous, c'est aussi pour pallier un petit peu à ça qu'on est parti sur l'idée de faire des présences sociales numériques parce que on peut, nous, on n'a pas cessé d'accueillir du public, mais c'est vrai que on est pendant un temps, par exemple, on avait le droit d'accueillir des jeunes seulement en individuel. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour certains, notamment pour les plus jeunes, c'est compliqué pour eux de venir nous voir en individuel, d'être en face à face avec un éducateur. Quand on a dans les 10-11 ans, enfin, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc souvent, c'est un public nous, qu'on croise plutôt en collectif. Mais pendant un temps, on n'avait plus vraiment le droit non plus de les accueillir. Donc là, c'est vrai que ça revient. On a de nouveau le droit d'accueillir des groupes en fonction de la capacité des salles, évidemment. Mais les activités qu'on peut proposer, oui, elles évoluent forcément. Là, je vois, par exemple, nous, on accompagnait un groupe sur un projet de réalisation de buffet pour les associations alentour. C'est un projet qu'on a dû abandonner, en fait, parce que cuisiner, déjà, se retrouver à plusieurs dans les locaux, c'est compliqué. Faire de la cuisine, on n'en parle même pas. Et puis, les associations, elles font plus forcément de buffet en ce moment. Après, pour un conseil d'administration ou une assemblée générale, elles font plus forcément de buffet. Donc, c'est un projet qu'on a dû abandonner, par exemple. Et c'est vrai que pour revoir les jeunes et leur proposer des activités, faut réfléchir à des choses où il n'y aura pas forcément trop de choses à toucher, où il n'y aura pas trop d'échanges d'objets. Donc, même un jeu de société, ça peut devenir un casse-tête avec la situation actuelle. Quoi.
Et lors de ces présences numériques, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à la fois le public que vous touchez, tranche d'âge peut-être, statut si vous en savez, et quelles sont leurs préoccupations? Est-ce que c'est pour parler de leur mal-être, de leur solitude? Est-ce que tu peux nous dire en résumé un petit peu
Oui, alors nous l'idée de base effectivement c'était de pouvoir être présent et que les jeunes ils aient cette possibilité d'être entendus aussi, parce qu'on s'est rendu compte pendant le premier confinement que ça leur a vraiment pesé aussi cet isolement, être mis à distance de tout, ça a vraiment été lourd pour eux. Mais dans les faits, c'est vrai qu'au final, les jeunes ne viennent pas forcément beaucoup échanger avec nous là-dessus, à part vraiment, à moins qu'on ait une relation déjà assez établie avec le jeune en question, mais on se rend compte que c'est quand même assez délicat, par le biais des réseaux sociaux, d'aborder des sujets aussi difficiles et qui peuvent mettre autant en difficulté. Mais nous, du coup, on essaye de leur proposer plutôt du contenu qui va les aider à se vider un peu la tête. Donc, ça peut être échanger ensemble sur des séries qui sortent en ce moment, comme sur de la musique, proposer ce genre de découverte-là. Là, en ce moment aussi, parler un petit peu, par exemple, des questions d'orientation, donc en repartageant des vidéos qui peuvent aborder ces sujets-là, ou aussi tout simplement en allant rencontrer les jeunes dans les messages privés. Voilà. Après, au niveau de la tranche d'âge et du public, finalement, c'est vrai qu'on touche à peu près tous les jeunes entre, moi je dirais, 11 et 21 ans, du coup. Avec en ce moment, par exemple, on se rend compte qu'il y a moins de monde sur les réseaux. Enfin, on arrive moins, du moins, à les avoir. Ils sont moins en ligne sur les créneaux qu'on propose. Donc, on va essayer de réajuster ça, mais on se demande si là, on n'est peut-être pas un peu tard en ce moment par rapport à leur présence sur les réseaux. Ça a marché il y a 2 mois. Maintenant, il faut se réajuster un petit peu. Donc, on s'adapte continuellement. Voilà.
Potentiel pour les cours, les visios et tout ça, ils en ont peut-être un peu aussi ras-le-bol et souhaitent faire autre chose peut-être le soir.
Ouais, je pense qu'effectivement, pour certains, ça commence à faire un long moment où finalement, le téléphone ou l'ordinateur, c'est devenu un outil de travail vraiment aussi pour eux. Et effectivement, peut-être qu'ils décrochent pas mal et que ce support-là, du coup, en ce moment... c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils ont envie le soir de prendre de la distance avec ça peut-être aussi. Donc,
Je sais que vos collègues à Mayenne font avec un groupe de jeunes des randonnées, chose qui n'était même pas envisageable avant, du coup, avec des jeunes de moins de 20 ans, de faire même le matin sur des longues distances. Et finalement, ça marche très bien. Donc les jeunes aussi doivent se saisir... j'imagine, de nouvelles animations.
Ouais, je pense que là, en fait, les jeunes, ils sont rendus à un point où ils ont tellement envie d'être accompagnés aussi qu'ils vont prendre plus facilement ce qu'on va leur proposer dans la mesure où on leur propose un temps privilégié, en fait, avec une personne qui va être disponible pour eux. Et effectivement, ce projet de randonnée, nous, on trouve, c'est quelque chose d'assez formidable parce que c'est arrivé un moment où, on va pas se mentir, nous, on s'essouffle aussi en tant que professionnel, des fois, de plus avoir tous ces supports qu'on a l'habitude d'utiliser. Et le temps peut paraître long, parfois, quand il faut travailler en plein confinement. Et là, en fait, c'est la relation que les éducateurs ont créée avec les jeunes qui a amené à ça, avec des jeunes qui avaient besoin de prendre l'air, qui avaient besoin de sortir, d'aller voir autre chose, et qu'on proposait d'eux-mêmes, en fait, de faire de la randonnée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche super bien, qui prend très, très bien. Avec ce groupe de jeunes sur Mayenne, mais nous, on essaye aussi du coup, de proposer à d'autres jeunes d'autres territoires. Et finalement, ils sont assez preneurs aussi. Alors, peut-être pas sur des distances aussi longues, mais vraiment, ouais, ce besoin d'aller s'aérer, de sortir du quartier, de respirer autre chose que l'air qu'ils ont le droit de respirer là depuis quelques temps. Et puis, on sent que le confinement, ça a marqué vraiment dans ce sens-là aussi. Quoi.
J'imagine que... c'est quelque chose que vous pouvez confirmer également, Laura ou Julie, vous qui aussi avez vécu et vivez encore la situation assez confinée et qui êtes privée de toutes vos activités habituelles. Laura, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis le couvre-feu actuellement et comment tu as pu vivre le confinement, toi?
Dans un premier temps, le confinement un petit peu compliqué puisque moi j'étais pas en France quand on a été confiné, donc je suis rentrée des États-Unis pendant le premier confinement. Donc moi je suis partie dans un pays totalement normal et je suis arrivée dans un pays totalement mort. Retour en France assez difficile. Ensuite, confinement, très compliqué. Je vais juste au travail et j'ai le droit que de sortir pour aller au travail et les courses. Donc, compliqué.
Oui, toi, Laura, tu as 25 ans. Tu n'es plus étudiante. Tu es actuellement mandataire judiciaire et tu travaillais à Walt Disney en Floride lorsque le confinement a été annoncé.
Oui, c'est ça. J'étais aux États-Unis. J'étais partie pour un an à la base, donc je suis partie en février. Et confinement, Covid, donc le parc Disney a été fermé. Et au bout de 4 semaines, ils nous ont virés et ils nous ont dit de rentrer à la maison. Donc retour à la maison et surtout nouveau projet à penser et à réfléchir.
Et comment tu as vécu cet imprévu lors de ta mobilité J'imagine que ça a été violent, tu emploies le mot virer, donc ça a dû être assez brutal.
Bah oui, c'est ça, ils nous ont dit, bah, vous avez 15 jours pour rentrer chez vous. Et après, on a dû retrouver nous-mêmes un avion, donc il n'y avait pas d'avion direct des États-Unis à la France. Donc je suis passée par le Canada pour réussir à rentrer à Paris. Et il n'y avait pas non plus de train disponible, donc j'ai réussi à retourner chez moi tant bien que mal. Après, voilà, nous, on pensait que ça allait rouvrir assez tôt. On était quand même dans un dans notre bulle à Disney, donc retour en France très compliqué. Et en juillet, on a reçu un mail de leur part pour nous dire qu'on était définitivement virés, c'est-à-dire qu'ils rouvraient pas le parc. Et là, du coup, il a fallu faire le deuil de ce projet-là. Ouais.
Et financièrement, comment ça s'est passé ? Tu as pu recevoir quand même des indemnités quelconques pour cette rupture de contrat prématuré ?
Non, pas du tout. Ils ont continué à nous payer pendant qu'on était confinés. Donc, j'ai été confinée là-bas 4 semaines. Donc, ils nous ont payé quand même. Et ensuite, retour par nos propres moyens au pays.
Et finalement, tu as trouvé un emploi ? Donc, puisque actuellement tu travailles, comment ça s'est passé cette recherche d'emploi malgré la situation et même ta candidature ?
C'est ça. Donc moi je suis partie début février, mais ça faisait 2 ans que j'étais diplômée de mon travail social. Et c'est vrai que j'ai commencé à chercher en septembre, donc très compliqué de trouver un travail durant cette période et dans mon domaine, sachant que j'avais pas d'expérience. Donc je suis partie travailler dans la vente, qui n'est pas dans mon domaine, pour vraiment avoir une situation financière un peu plus stable. Et j'ai réussi à trouver un emploi, donc j'ai fait un entretien qui n'a pas donné suite, et j'ai enfin trouvé là en décembre, en tant que mandataire judiciaire.
Et donc, les entretiens, comment ça se passe ? C'est en visio, j'imagine ?
Oui, un premier entretien en visio, dans la plupart du temps. Et ensuite, si cet entretien est validé, on refait un deuxième entretien physiquement.
Ok. Et comment ça se passe de vivre un entretien en visio ? Peut-être qu'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui vont avoir à en faire, que ce soit pour leur poursuite d'études ou leur job d'été, puisqu'on est, on va entamer la période de recrutement pour l'été. Est-ce que tu as un témoignage à leur apporter et peut-être des conseils concernant l'entretien en visio ?
Eh ben, dans un premier temps, faut quand même se préparer, je pense, comme si on partait de chez nous. Après, très compliqué de prendre la parole ou de donner son avis. Il faut vraiment attendre les questions pour répondre. Sinon, ça se fait. C'est pas horrible.
Merci.
Si tu es disponible, on va pouvoir éventuellement parler de ton expérience. Tu étais étudiante en fac, tu as interrompu tes études. Est-ce que tu peux nous dire si c'est lié à la conjoncture, au fait que ce soit à distance, à l'impact du contexte actuel ou pas ?
Oui, alors effectivement, donc, alors moi déjà j'ai passé le bac, enfin j'ai pas passé vraiment le bac du coup parce que ma fin de terminale je l'ai fait à distance du coup avec les cours en visio. Donc déjà c'était compliqué, je trouvais les cours en visio, enfin c'était vraiment pas idéal, j'avais du mal à me motiver le fait de pas aller en cours. Donc voilà, mais après bon le bac ça a été en contrôle continu. Et donc ensuite, j'ai commencé une licence histoire de l'art à Rennes 2, donc à la fac. Et donc en fait, on a été en tout, je pense, un mois en présentiel, puisque directement, on est passé très vite à du distanciel. Donc c'est vrai que c'était vraiment compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de se rencontrer, de créer des liens. Donc moi ça allait parce que j'étais en colocation, donc je me sentais un peu moins seule, mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était pas vraiment comme ça que j'imaginais la fac et les années de fac. Et donc après oui, j'ai fait le choix d'arrêter la fac, puisque non seulement les cours ne me plaisaient pas vraiment, mais c'est vrai que Je pense que le contexte et le fait que les cours soient en distanciel, je pense quand même que ça a joué parce que, comme je le disais déjà pour la fin de terminale, j'avais vraiment du mal à suivre les cours. Donc là, au début, bah, j'ai essayé de m'accrocher, mais finalement, je me suis vite rendu compte que j'allais jamais tenir une année comme ça, puisque là, encore maintenant, la plupart des cours sont en distanciel pour les gens qui suivent les cours à la fac. Donc ça, c'est très compliqué. Donc je savais que moi, ça allait pas le faire. Donc j'ai décidé d'arrêter et de chercher du travail. Donc voilà.
Donc tu as fait quoi en termes de petits jobs? Tu peux nous parler un petit peu concrètement de ce que tu as trouvé?
Oui, alors du coup, directement, j'ai recontacté ma patronne. Donc c'est une agence de ménage, d'entretien, donc pour laquelle j'avais travaillé déjà cet été. Donc je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me proposer et assez vite, elle m'a proposé un contrat. Donc pendant 3 mois à peu près, non peut-être 2 mois, j'ai fait donc des prestations de ménage, donc en entreprise. Et puis ensuite, quand mon contrat s'est arrêté, j'ai grâce au CIJ, du coup, Centre Information Jeunesse, j'ai trouvé une offre d'emploi pour être téléconseillère pour la vaccination Covid. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement.
Donc toi, on peut dire que la situation actuelle, t'as, contrairement à certains qui ont perdu un job, toi, c'est ce qui t'a permis, enfin, en tous les cas, ce que tu fais en ce moment, c'est lié à la conjoncture proprement parlée.
Oui, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que bah, la plupart de mes amis, etc., ont vraiment énormément de mal à trouver des jobs. Donc là, franchement, l'enchaînement s'est vraiment très bien fait entre mes deux boulots. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là. Après, bon, là, le travail que je fais, c'est vraiment pas... je peux vraiment pas me projeter. Par exemple, là, cette semaine, je suis obligée, avec le système des contrats, des carences, je suis obligée d'arrêter. Et donc, je sais pas s'ils vont me reprendre la semaine d'après. Donc, je sais pas du tout, là, ce que je fais dans 2 semaines, quoi.
Ah, OK. T'es carrément déjà en mode pause lié au problème de carence.
Oui, voilà, déjà. D'accord. Parce qu'on ne pouvait pas renouveler plus de 3 ou 2 contrats, je ne sais plus. Donc, voilà.
Donc, tout à l'heure, tu disais que tu avais beaucoup de camarades autour de toi qui ont du mal à trouver des jobs. Il y en a beaucoup comme toi qui... Enfin, tu connais pas mal de gens qui ont arrêté les études à la fac ou autre?
Alors, qui ont arrêté, non. Non, je n'en connais pas. Enfin, dans mon entourage, pas vraiment. Après, je sais que, par contre, c'est vraiment très compliqué pour eux de suivre.
Oui, un peu un ras-le-bol, comme les gens qui sont en télétravail, d'avoir tout à distance, le manque de contact, de relationnel, etc.
Oui, vraiment, le fait de se retrouver tout seul dans son petit appartement, de ne pas pouvoir sortir. En fait, pour les étudiants et pour les jeunes en règle générale, ceux qui suivent la fac, et puis même, je pense, d'autres cursus, en fait, on a l'impression d'être tout le temps confiné, puisque du matin au soir, pas pour moi du coup, parce que je travaillais, je sortais un peu. Bon, là, je reste tout le temps chez moi, mais pour la plupart de mes amis, ils sont chez eux du matin au soir devant leur ordinateur à suivre les cours, et puis ils sortent pas, quoi.
Oui, plus de temps conviviaux, plus de temps de rencontres, etc. Donc, c'est compliqué. Est-ce que ça remet en cause cette situation actuelle, ton projet d'orientation? Est-ce que ça t'a permis de prendre du recul ou de réfléchir ou de changer carrément d'orientation?
Alors oui, effectivement, du coup, quand j'ai fait le choix d'arrêter la fac, je me suis dit que j'allais vraiment prendre le temps de réfléchir à mon orientation, ce que j'avais pas réellement fait pendant mon année terminale. Donc j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir et donc là je me réinscris sur Parcoursup pour faire un BTS communication l'année prochaine. Voilà.
Et pour faire le lien avec la première partie de l'émission, est-ce que autour de toi tu as vu des personnes qui avaient ce besoin de soutien par des organisations comme la Banque Alimentaire? Est-ce que ça t'a fait écho à ton vécu d'étudiante?
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai vraiment la chance du coup d'avoir mes parents et donc je vis chez eux, donc j'ai aucun souci financier ou alimentaire. Mais par contre, effectivement, je connais beaucoup de gens qui ont ce problème-là et pour qui les aides dont on parlait, par exemple, en début d'émission, sont vraiment très importantes.
On va faire une petite pause et puis on se retrouve juste après.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Qui nous foutait la frousse, t'es les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour sur l'Instant Jeune de l'autre radio. Aujourd'hui, notre émission est dédiée à la manière dont les jeunes s'adaptent à la situation sanitaire actuelle. Je suis accompagnée de Laurence du CIJ de Laval, également de Laura et Julie, qui sont deux jeunes salariés sur le territoire et qui témoignent de leur expérience, et Monsieur Loget de la Croix-Rouge. Nous allons écouter... le travail d'un groupe de jeunes qui, l'été dernier, a réalisé un micro-trottoir et interrogé des habitants de Mayenne. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire.
Bonjour, nous sommes Vincent et Manon, deux jeunes participants au chantier Argent de Poche. Nous avons décidé de réaliser un micro-trottoir sur le thème de la jeunesse dans la ville de Mayenne.
Nous avons donc interrogé plusieurs personnes dans les rues de Mayenne et également dans l'association Les Possibles. Écoutons le résultat.
Selon vous, qu'est-ce qui a le plus manqué aux jeunes pendant le confinement ?
Enfin, mon pote, enfin, le fait de se retrouver juste, à part ça, il n'y a rien.
Les sorties, parce que ma fille, oui, qui a 20 ans, ouais, le fait d'être confinée pendant 3 mois, ça a été dur, oui.
Bah, les sorties, avec les potes, aller boire des coups au bar, hein. Enfin, c'est l'expérience, ce que j'entendais à la maison, c'était ça. Et encore maintenant, c'est
Je pense que ça, c'est la rencontre, mais c'est pas que les jeunes, hein, c'est aussi adultes. Le fait d'être enfermé, de justifier d'un déplacement, et c'était très compliqué. Et puis le fait de ne pas pouvoir se voir, tout simplement.
Ah, certainement, la proximité de leurs amis, de pouvoir sortir ensemble, de faire la fête et tout, ça c'est vrai, quand on est jeune, on aspire à la liberté, à la fête et tout, et puis actuellement, c'est pas le cas, quoi.
Les relations avec les amis, même si quand on est sur les réseaux sociaux, on a réussi à quand même garder contact, même avoir plus de contact qu'habituellement. Mais je pense que ce qui a manqué en général à tout le monde, c'est voilà, de pouvoir séquencer les moments de la journée en changeant de lieu. Voilà, on pouvait vite trouver que les journées se ressemblaient. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde.
Moi, ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement, c'était de pouvoir sortir, de pouvoir aller au restaurant, aller au bar.
Bah, en gros, on nous a pas assez informés, même sur au niveau de l'école, tout ça. Il y avait des profs. On n'a pas été assez informés, on nous a grave laissé de côté, même les lycéens et tout. On a eu des réponses tard par rapport à la reprise du lycée et tout ça. Il y en a qui ont été oubliés.
Ouais, cette privation de liberté qu'on a tous subie, je pense que quand on est jeune et qu'on veut vivre pleinement les choses, ça a pu être pour certains, j'imagine, assez difficile. Effectivement, d'être loin de ses amis, c'est aussi un âge où on est habitué à se retrouver avec ses groupes de pères et ses potes. Donc j'imagine que ça a pu être compliqué.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre micro-trottoir.
Et nous vous remercions aussi de votre écoute. Au revoir.
Merci à Vincent et Manon pour ce petit micro-trottoir. Julie ou Laura, est-ce que vous avez des réactions suite à cette écoute? Vous, qu'est-ce qui vous a manqué ou qui vous manque encore cette année? Laura, peut-être?
Oui, moi, ce qui me manque beaucoup, c'est les concerts et les festivals. J'aurais bien aimé faire ça cet été.
On espère encore, peut-être.
Oui.
Et toi, Julie?
Bah, alors, du coup, moi aussi, les concerts, les festivals et puis les soirées avec les amis.
Et comment vous vous adaptez à ça? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant, comme les jeunes précédemment qui font de la randonnée? Vous, comment vous vous êtes adapté à ces changements-là?
Moi, personnellement, je fais de la randonnée avec une cousine, donc on part régulièrement, je fais également de la randonnée du coup.
Je suis aussi de cette team randonnée depuis quelques semaines. Donc, nouvelle activité à faire en Mayenne, la randonnée. Et toi, Julie?
Bah alors, moi, j'essaie d'aller me promener. Puis, je fais du sport que je ne faisais jamais. Donc, voilà, avec une amie, tous les dimanches, on va courir.
Et comment vous avez pu trouver des ressources, de l'aide quand vous en aviez besoin et auprès de qui vous vous êtes tourné? Tu parlais du CIJ de Laval tout à l'heure lors de ta recherche d'emploi. Peut-être Laura, à ton retour de voyage, tu as pu solliciter des structures ou des personnes ressources pour rebondir?
Moi, dans un premier temps, ça a été ma maman qui m'a réaccueillie à la maison et qui m'a permis d'avoir un toit et de quoi manger. Ensuite, ça a été mon réseau suite au stage pour réussir à trouver un emploi.
Oui, parce que le retour d'une mobilité souvent est compliqué, mais j'imagine qu'en ces circonstances, ça peut l'être d'autant plus. Et pour toi, Julie, vers qui tu te tournes quand, vers qui ou vers quoi tu te tournes quand un coup de mou, quand tu as besoin d'un coup de pouce?
Alors du coup, moi, je remercie vraiment ma famille parce que du coup, je suis rentrée à la maison et ils sont vraiment là pour moi. Et puis aussi, j'ai eu la chance parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui n'avaient pas forcément des amis, qui pensaient justement s'en faire à la fac, etc. Donc moi, j'ai vraiment eu la chance d'être super bien entourée donc par ma famille et par mes amis du lycée sur qui je peux vraiment compter.
Donc tu avais pris un logement à Rennes, je ne sais plus.
Oui, j'avais un appartement en colocation.
Donc tu l'as redonné?
Alors pour le moment, mes parents le paient toujours. Et puis On attend de voir si ma coloc va trouver une autre coloc, du coup.
Ok, donc tu continues de louer dans la coloc sans y habiter du tout, sans y retourner même ponctuellement?
Ben non, pas vraiment, parce que du coup, comme je travaillais, puis mais ouais, c'est vrai que c'est pas idéal, quoi, mes parents qui continuent à payer alors que je n'y suis pas du tout.
Et Laura, toi, tu, même si ce projet de mobilité il a été avorté, est-ce que tu as d'autres projets? Et vers quoi tu comptes te tourner si c'est le cas?
Eh ben moi, je serais bien retournée aux États-Unis pour finir ce que je voulais faire, mais pour l'instant, trop compliqué. Donc, j'ai choisi de travailler et de mettre de côté mes loisirs et mes envies de voyage.
Et j'en profite pour rappeler que le Corps européen de solidarité, qui est un volontariat européen pour les jeunes de 18 à 30 ans, est toujours possible. Voilà, donc dans des conditions particulières forcément, mais il est toujours possible de profiter de ce dispositif et de, si on, comme toi Julie, on n'arrive pas à se mobiliser sur des études en distanciel, faire autre chose comme un volontariat et notamment en profiter pour améliorer sa langue à l'étranger, c'est encore possible même si c'est différent forcément. Laurence, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui sont dans ces situations-là et qui pourraient être aidés par des structures?
Moi, je voulais juste faire un petit rappel des mesures nationales hein, qui ont été adoptées plus ou moins récemment. Donc, on est revenu tout à l'heure, on en a parlé brièvement. Donc, avec le CROUS, hein, tous les étudiants, boursiers ou non, puisqu'avant c'était réservé aux boursiers, ce n'est plus le cas, peuvent avoir deux menus à 1 € par jour à emporter. Donc, j'étais en contact avec le RU tout à l'heure à Laval. Donc, c'est toujours à emporter. Maintenant, à partir de demain, il y aura une salle à disposition et il y aura possibilité pour les étudiants de pouvoir manger un repas sur place, mais alors dans des conditions sanitaires très strictes, c'est-à-dire un étudiant par table. Donc ça veut dire qu'ils pourront accueillir en simultané maximum 100 étudiants, alors qu'en temps normal à la CAFET, ils font 1000 repas. Là, actuellement, ils sont à peu près à 300 passages par jour. Donc... La possibilité également de bénéficier d'un chèque psy hein, pour les jeunes qui sont en difficulté, ont vraiment besoin de parler. La possibilité là, qui se met en place en ce moment, hein, d'avoir 3 consultations gratuites avec des psychologues ou des psychiatres, sans avancer de frais, donc c'est quand même important. Les étudiants qui ont des situations familiales qui ont connu une baisse vraiment importante et durable hein, en raison de la crise sanitaire peuvent demander une révision de leur bourse. Donc ça peut être important également. Et même les étudiants non boursiers hein, peuvent également faire appel au CROUS pour une aide d'urgence. C'est toujours possible également en contactant le service social du CROUS. Donc il y a une permanence toutes les 2 semaines d'un travailleur social sur Laval et possibilité par ce biais d'avoir des informations plus détaillées. En sachant qu'il y a un numéro national que je voulais diffuser qui est non surtaxé et qui est joignable de 9h à 17h du lundi au vendredi pour avoir toutes les informations sur les aides, parce qu'Internet c'est bien, mais parfois sur les sites ça peut paraître un peu compliqué. Donc c'est le 0806 30 278. Dans les autres peut-être adresses utiles, on peut parler du fil santé jeune. Hein, c'est en fonction, enfin ça fonctionne depuis très longtemps et toute l'année. C'est un numéro anonyme et gratuit. Il y a également un chat. Donc si les jeunes sentent le besoin de parler avec des médecins ou des psys, ils sont là pour ça. Donc là, je vais rappeler également le numéro. C'est le 0800 235 236. Bon, au niveau local, hein, il y a également la maison des ados à Laval hein, qui est ouverte à tous les jeunes de 11 à 21 ans ainsi qu'aux parents avec ou sans rendez-vous, même actuellement. Peut-être parler d'une initiative qui a été mise en place par un jeune étudiant lillois qui a créé une plateforme qui s'appelle Élèves solidaires pour lutter contre le décrochage scolaire, où là, lycéens et étudiants peuvent échanger leur savoir, peuvent échanger effectivement des fiches de cours, solliciter un soutien via un forum. Donc, ils sont présents à la fois sur Instagram et ils ont également un site internet. Et puis, il y a la plateforme nationale hein, soutien-étudiant.info qui peut donner des conseils à la fois pour s'occuper de son bien-être mental et puis donner la liste des lignes d'écoute sur le plan national. Éventuellement, juste pour terminer sur une note optimiste, je voulais partager une petite découverte d'Insta que je trouve sympa. C'est un jeune Lillois qui a créé ce compte. Ça s'appelle Smile-Info, qui diffuse tous les jours au moins une information positive. Et en ce moment, je trouve qu'on en a bien besoin. Donc, c'est quelque chose de plutôt sympa à suivre.
Merci Laurence. Eh bien oui, et puis pour finir sur cette note positive, les filles, c'est même si voilà, il y a eu des difficultés cette année, vous avez pu resserrer les liens familiaux, donc ça c'est chouette. Faire des économies en travaillant ou en dépensant moins. Et puis bah voilà, on retient quand même ce bon plan des randonnées. Toutes les randonnées sont disponibles sur les sites des offices de tourisme. Et bon, bien que ce soit un peu inondé en ce moment.
Et peut-être on va quand même rappeler que les jeunes qui ont besoin, les structures information jeunesse sont là sur tout le territoire en Mayenne, peuvent continuer de recevoir dans la plupart des cas sur rendez-vous, mais aussi on est présent sur les réseaux sociaux où on peut répondre également par mail. Et puis il y a le site info-jeune.fr sur lequel vous pouvez y trouver de nombreuses informations.
Merci pour ce rappel Laurence. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à nos auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés. On espère que vous avez apprécié. Vous pouvez bientôt nous retrouver en podcast sur le site de l'Autre Radio. Et on se donne rendez-vous le 9 mars pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.
Merci à vous. À bientôt.